Immaculée, bonjour. Manon, Pasteur André, bonjour. Lucie, bonjour. Pascal, bonjour. On est le mardi 17 mai 2022. Bienvenue à cette autre bénédiction matinale. J'espère que vous allez tous très bien. Merci Manon, merci Lucie. Journée plus fraîche aujourd'hui. Il ne va faire que 15 degrés. Pour certains, c'est le retour de l'hiver. Pour moi, c'est une journée agréable. J'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par la pluie hier. Par moments, ça tombait vraiment fort. Bonjour Mérest. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour Guy. Bonjour Rosie. Bonjour Claude. Effectivement, Manon est très bien dehors. Le petit café ce matin, quand j'ai sorti Néma à l'extérieur, c'était juste bien agréable. Rosie, nous, la chaleur revient samedi ou dimanche. Je pense qu'il prévoit 30 ou 33 degrés. Eh non, Claude, ça ne dérange pas. Ça garde bien éveillé. Bonjour Marie-Huguette. Merci Pascal. Yaoi. Yezouaini. J'espère que tu vas bien. Bonjour à la belle-mère. Shalom, shalom à vous aussi. Salut mon père et ma mère tout à l'heure, maintenant salut ma mère et mon père. Ici, la pluie va faire en sorte que le gazon verdisse. On avait une interdiction de faire un feu à l'extérieur pour tout le Québec. Parce que c'était déjà trop sec. Donc là, ça a été levé au cours des dernières journées. Bien sûr, pour ceux qui sont à l'extérieur de Montréal. À Montréal, on n'a toujours pas le droit de toute manière. Mais ça, c'est plus juste pour expliquer combien on manquait d'eau déjà. Et on est simplement à la mi-mai. Donc encore 5 minutes environ, puis on va débuter. Bonjour Nathalie, sois bénie. Maria Gabriella, soyez bénie. Aussi, chez nous, c'est toujours interdit au niveau de Montréal. Même les cheminées ou les foyers où on brûle du bois sont interdits. En tout cas, on n'a pas le droit d'en installer de nouvelles. Il nous faut installer foyer au gaz ou à l'électricité. Question de pollution, voilà. De smog et tout ça. Juste sur Montréal, tu traverses la rivière et tu as le droit, mais sur l'île, interdit. Malheureusement. Alors hier soir, il y avait le cours sur le livre des Éphésiens, ou l'épître aux Éphésiens plutôt, dirons-nous, avec le pasteur André. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez y jeter un œil après notre rencontre de ce matin, c'est toujours disponible. J'aimerais vous dire que demain matin, je ne serai pas en onde. Je dois amener Daphné à l'extérieur de Montréal pour quelques jours de séminaire à l'extérieur, donc ou de colloque. Donc je serai sur la route demain matin. Donc je ne serai pas en onde demain matin. On se retrouvera demain soir pour l'étude biblique à l'église ou en ligne. Puis jeudi matin, je serai bien entendu à mon poste régulier. Bernadette, bonjour. Merci Maria Gabriela. Marguerite Fayade, bonjour. Jude, bonjour. Salutations à Caridad. Donc encore une petite minute ou deux avant qu'on ne débute. Bon matin Denise, j'espère que vous allez bien. Marguerite, si je me rappelle bien, vous nous regardez de Lille, n'est-ce pas? Alors, quelle est la température aujourd'hui chez vous? Babette, Andreas, bonjour. C'est vrai que quand on parle de canicule, c'est moins agréable. Le facteur humidex et tout ça, donc ouais, on respire mal, on dort mal, ça peut être pénible pour plusieurs, effectivement. Alors, on va vous souhaiter un peu de pluie très bientôt pour que les degrés puissent descendre un peu. Hermana Susana, que Dios me la bendiga. Hace algunos días que no la veo. Que Dios me la bendiga, hermana. Myriam, Donald, bonjour. Alors, on va prier pour débuter. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est encore une source de bénédiction. pour nous tous une source d'enrichissement, une source de, d'édification, une source de nourriture et de breuvages spirituels qui nous font du bien. Demande, Seigneur, que tu répandes sur nous ta grâce afin qu'on puisse saisir, comprendre, assimiler ta parole pour nous aujourd'hui. Et qu'en toute chose, Seigneur, que tu nous soutiennes dans cette journée qui débute avec chacun des défis que nous aurons à confronter, mais aussi, Seigneur, toutes les victoires que tu as déjà remportées et que tu nous accorderas sur ce long chemin qui est nôtre. Alors, sois avec nous, bénis-nous par ta présence. Et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi, et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Ce matin, très content toujours de vous compter parmi nous. On continue notre étude sur la thématique, les leçons de la prison, des leçons que Jérémie a eu à apprendre en prison, et que nous avons aussi à assimiler face au temps difficile qu'on peut traverser, et notamment lorsqu'on parle de prison, on parle de confinement, on parle d'isolement, et c'est probablement un type de fonctionnement qui a été le nôtre à travers les deux dernières années, puisqu'on a été confronté à cette pandémie qui nous a tenus loin les uns des autres, et qui nous a obligé à maintes sacrifices. Donc, je lis pour vous dans Jérémie au chapitre 33, du verset 1 au verset 3. Et pendant toute cette semaine, on étudie le verset 1, le verset 2 la semaine qui vient, et l'autre suivante, le verset 3. Mais je lis pour vous les trois versets que nous étudions. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la prison, ou dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je reprends le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Et on le relit tous ensemble une dernière fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors hier, on a parlé du terme « parole » et du terme éternel. Parole, le terme d'abar. Éternel, le mot hébraïque Yehovah. Donc, on a vu tout d'abord que Dieu parle encore. Nonobstant des circonstances dans lesquelles on peut se trouver, peu importe la difficulté dans laquelle on peut se trouver ou le chemin périlleux qui peut être le nôtre, Dieu parle et Dieu parle encore. Et Jérémie devait apprendre que Dieu ne l'avait pas abandonné, que Dieu n'avait pas cessé son travail à travers lui, que même s'il était enfermé dans un cachot, Dieu continuerait à travailler à travers son serviteur qu'il avait appointé, établi pour être prophète des nations. Alors, Dieu parle encore aujourd'hui, mon frère. Dieu parle encore aujourd'hui, ma sœur. Et de surcroît à cela, avec le terme éternel, et j'expliquais dimanche que ce n'est ni un prénom, ni un nom de famille, c'est un qualificatif. Lorsqu'on dit que notre Dieu est l'éternel, ça veut donc dire qu'il n'en a pas d'autres qui sont éternels. Lorsqu'on parle de Yéhovah, la traduction ou le terme hébraïque d'origine, Yéhovah veut dire celui qui est, contrairement à ceux qui ne sont pas, et celui qui existe, contrairement à ceux qui n'existent pas. Donc on se disait qu'effectivement Dieu parle, et que Dieu parle parce qu'il est le seul, l'unique et le véritable Seigneur. Quand on parle de l'éternel, on parle aussi d'exister sur une longue période. Ça veut dire que notre Dieu demeure encore aujourd'hui le même. La Bible nous dit qu'il n'y a chez lui pas même l'ombre d'un changement. Ça veut donc dire que ses préceptes, ses recommandations, ses attentes, son fonctionnement, sa nature restent même identiques d'éternité en éternité. Dieu parle encore et Dieu est encore le même aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la prochaine section de la phrase. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Et trois mots importants qu'on va étudier ce matin. Le nom, le prénom Jérémie, qui en hébreu se dirait Yirmeya, donc Y-I-R-M-E-Y-A. Je répète, Jérémie en français, Yirmeya en hébreu, Y-I-R-M-E-Y-A. Le deuxième mot qu'on va étudier, le groupe nominal une seconde fois qui est un seul mot en hébreu, qui est le terme seni, S-E-N-I, seconde fois, seni, S-E-N-I. Et enfin, en ces mots, le Seigneur lui parla une seconde fois en ces mots, le terme mot, c'est le terme amar, un peu comme aimer en espagnol, amar, A-M-A-R, donc mot, les paroles, mot, amar, A-M-A-R. Et on va aller successivement sur l'étude donc de ces trois termes. Jérémie, Yirmeya. Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, c'est que chacun des noms de personnes, les noms de lieux, les noms de pays, ont une signification. Lorsqu'on retourne dans l'étymologie des termes en hébreu, on se rend compte qu'un nom n'est pas le fruit du hasard. Et très souvent, lorsqu'on regarde le personnage d'une histoire biblique, on se rend compte que le mot peut bien souvent avoir une incidence particulière. En fait, on ne nommait pas quelqu'un sur la sonorité d'un mot. On nommait à l'époque quelqu'un selon la vision qu'on pouvait avoir pour cette vie nouvelle qui était donnée, pour cette existence nouvelle qui voyait le jour. Alors, Jérémie voulait dire celui qui est appointé de Dieu ou celui qui est établi par Dieu. Appointé, établi par Dieu. Et vous en conviendrez que ce n'est pas un hasard du tout. La Bible nous dit dans Jérémie au chapitre 1, lorsque Dieu va se révéler à Jérémie, il va lui dire « Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. » En d'autres termes, je t'avais déjà appointé, je t'avais déjà établi, afin que même si tu n'avais pas encore vu le jour où tu naîtrais, tu serais déjà prophète des nations. Dieu établit encore ses serviteurs aujourd'hui. Jérémie devait comprendre que même s'il était en prison à cause du ministère, même s'il était en prison parce qu'il avait exercé avec justice ce que Dieu lui avait demandé de faire et qu'il se retrouvait maintenant isolé, maintenant embrigadé ou emprisonné, il devait comprendre que son appel n'était pas fini, qu'il était encore et toujours celui qui avait été établi par Dieu. Je me rappellerai toujours une conversation à laquelle j'ai assisté lorsque j'étais plus jeune. On était de retour en France. Mon père était pasteur d'une toute petite église dans laquelle, pendant un certain temps, il y avait trois membres. En plus du pasteur, trois membres. Et ces trois membres, ça s'avérait être son épouse, sa fille et son fils. Donc, ma mère, ma sœur et moi. Et c'était ça l'Église pendant un certain temps. Et assurément, dans la vie d'un pasteur, il n'y a pas que de belles journées. Il y a des journées de doute, il y a des journées de crainte, il y a des journées où on est prêt à lancer l'éponge. Et dans une de ces journées, mon père disait, oui, je vais appeler le pasteur à Montréal, celui qui était le superviseur de l'œuvre et des missions, donc le pasteur Fontalvaux, celui qui était mon prédécesseur, et je vais lui dire que je démissionne. Et ma mère lui a répondu une phrase importante. D'accord, lui a-t-elle dit, tu peux appeler à Montréal, tu peux démissionner, mais qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Et cette question est importante parce que mon père n'avait pas été appelé par un groupe missionnaire, mon père n'avait pas été appelé par une direction d'église, voire même un pasteur d'une église. Mon père, à la base, tenait son appel de Dieu. L'appel que nous recevons, le mandat que nous ne le recevons pas d'homme. Il peut se manifester, il peut nous être communiqué à travers certains hommes lorsque Dieu en décide ainsi. Mais l'appel émane directement du plan, du mandat, de la mission que Dieu avait pour nous en réserve avant même qu'on ne soit né, lorsqu'il pensait à notre venue, à notre naissance, Dieu avait un appel. Et la question de ma mère, c'était, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu voulait faire de ta vie? Que vas-tu faire avec l'appel que Dieu avait proclamé sur ta vie avant même que tu ne sois né? Et Jérémie était confronté à de mêmes moments. Soyons très, très honnêtes. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les journées d'un pasteur ne sont pas merveilleuses. Il y a des journées où on pense démissionner. Il y a des journées où on pense vraiment démissionner. Il y a des journées où on pense plusieurs fois à vraiment démissionner. Est-ce qu'on le fait? Certains le font à l'occasion. Est-ce que j'ai eu ces mêmes pensées? Assurément. Est-ce que j'ai eu ces pensées pendant la pandémie? Je ne dirais pas que ces pensées-là ont meublé mes années de pandémie, mais assurément, il y a des moments où je me disais, hey, la vie serait tellement plus simple si Dieu m'avait donné une autre carrière que celle que j'occupe actuellement. Pourquoi? Parce que toutes les journées dans la pandémie n'étaient pas faciles. Mais ce qui nous réconforte, ce qui nous tient accroché à l'œuvre de Dieu, c'est de savoir que cet appel ne vient pas d'un homme, ne vient pas de notre imagination, ne vient pas de nos propres aspirations, ou ne devrait pas venir de nos propres aspirations personnelles, mais vient de Dieu. Et il est très difficile de dire à Dieu, je démissionne. Je l'ai déjà fait. Étant beaucoup plus jeune, en fait, je me suis rebellé face à l'appel de Dieu. À partir de l'âge de 8 ans, et je m'excuse, j'ai la bouche sèche un peu et la gorge un peu irritée. À l'âge de 8 ans, je me lève un dimanche matin et je vais voir mon père avant qu'on ne parte vers l'église. Mon père n'était pas pasteur à l'époque, on était simplement membre, nouveau converti jusqu'à un certain point. Et je vais voir mon père et je lui dis, quand je vais être grand, je veux être pasteur. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça à mon père. Mais ce dimanche matin-là, en me levant, j'avais ce désir ardent d'un jour être pasteur. Mon père ne fait pas cas de ma mention. On arrive à l'église, le pasteur vient nous saluer, le pasteur Fontalvaux, celui que j'ai dit qui était mon prédécesseur, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc il vient nous saluer et mon père le regarde en lui disant « Mais Florent a quelque chose à te dire ». Et le pasteur Fontalvaux se tourne vers moi en me disant, mais alors tu veux me dire quoi? Et je lui dis, quand je vais être grand, je veux être pasteur. Et instinctivement, les deux, mon père et le pasteur Fontalvaux, ont posé leurs mains sur moi et ont fait une courte prière qui disait simplement, Seigneur, on prie que ce désir ne quitte pas Florent. J'avais 8 ans à l'époque. Et ça a duré pendant 4 ans. Pendant 4 ans, mon désir était d'être pasteur. Jusqu'au jour où mon père lui-même est devenu pasteur. Et ce moment-là, les choses ont littéralement changé. Et je suis passé par cette phase de rébellion contre Dieu, mais surtout une rébellion contre l'appel que Dieu avait lancé à ma vie. Je ne savais pas à l'époque de mes 8 ans que c'était l'appel de Dieu. Aujourd'hui, avec du recul, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de connaissances, je me rends compte que Dieu me parlait et Dieu m'appelait avec les capacités que j'avais de comprendre en tant qu'enfant. Mais qu'avec le temps, c'était effectivement non pas un désir d'un gamin, un désir puéril d'un enfant qui rêve de faire quelque chose, mais que c'était l'appel de Dieu qui se manifestait pour une toute première fois dans ma vie. Quand j'ai eu 12 ans et que mon père est devenu pasteur, j'ai déchanté, mais vraiment déchanté, à un tel point où j'ai dit à Dieu, regarde mon dos, et ça je vous l'ai déjà expliqué, regarde mon dos, je m'en vais, c'est la dernière chose que tu vois. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, ce que je n'avais pas encore saisi, c'est que la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Alors je suis rentré dans un combat tête à tête avec Dieu, front contre front, où Dieu me pourchassait pour l'œuvre et j'essayais de le fuir. Et c'était effectivement peine perdue. Quelques années plus tard, donc cette période de rébellion a duré probablement de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, et jusqu'à ce que je capitule devant Dieu avec grande joie. Beaucoup de larmes dans la journée où j'ai baissé pavillon et j'ai dit à Dieu, ok, mais c'était des larmes de beaucoup de choses, c'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes qui venaient nettoyer mon intérieur, qui venaient nettoyer ma vie, qui venaient changer le cours de mon existence. Et je comprenais à ce moment-là que Dieu m'avait établi pour un jour le servir. Est-ce que je savais que je reviendrais à Montréal, que j'officierais comme pasteur au sein de la congrégation ici à Montréal, que j'irais même jusqu'à succéder à celui à qui j'avais dit que quand je serais grand, je voulais être pasteur? Je ne le savais pas, mais Dieu le savait. Un peu à l'instar de Jérémie, avant même ma formation dans le sein de ma mère, avant même ma conception, j'étais déjà établi par Dieu pour faire ce que je devais faire. Et chacun d'entre nous a notre portée selon notre appel, selon le mandat que Dieu nous accorde. Dieu nous établit encore aujourd'hui. Dieu nous établit encore aujourd'hui. Et je peux vous dire que Dieu continue à parler, puisque c'est le deuxième terme, « séni », qui veut dire « Dieu vint lui parler » une deuxième fois. Séni veut dire donc deuxième, encore, une autre fois. Et si je reviens à cette époque, je ne pensais même pas en parler ce matin, mais je vous raconte un peu. Si je reviens à cette époque où j'étais rebelle avec Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de me parler tout au long de ces 4 années. En fait, régulièrement, pendant cette période de 4 années, des gens venaient et me disait, Florent, je sais pas pourquoi. Et ils commençaient toujours leur discours ou leur commentaire avec, Florent, je ne sais pas pourquoi. Et c'est arrivé si souvent qu'à un moment donné, dès que quelqu'un disait, Florent, je ne sais pas pourquoi, je savais comment ça allait terminer. Alors il y avait quelqu'un qui venait et me disait, Florent, je ne sais pas pourquoi, mais je sens de te dire que Dieu veut travailler avec toi. Au début, c'était peut-être une fois à tous les 6 mois où quelqu'un se pointait de façon inopinée, sans que j'aie demandé quoi que ce soit. Et là, se sentait investi d'une parole de Dieu pour me dire, Florent, Dieu veut travailler avec toi. Puis, la règle des 6 mois a changé. C'est devenu à tous les 3 mois, puis à tous les 2 mois. Et ça a accéléré. À un tel point où le dernier été, avant que je ne capitule devant Dieu, ben ça arrivait, mais fréquemment. Ou quelqu'un que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Dieu a parfois utilisé des gens que je ne connaissais strictement pas pour venir me voir et me dire, Florent, ou jeune homme, puisqu'il ne me connaissait pas, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu veut vous utiliser. Je me rappelle une fois, j'étais en vacances et quelqu'un dans la rue m'a arrêté pour me dire, cela n'était même pas en français, c'était en espagnol. Alors Dieu continue à parler. Dieu continue effectivement à nous instruire. Même lorsque j'étais dans cette période de rébellion, Dieu continuait à venir me parler, me mettre au défi et me lancer un appel. Puis dans les moments difficiles, dans les moments où on ne voit pas les choses avancer, dans les moments où on sent les gens qui s'opposent, dans les moments où on voit que les circonstances autour de nous ne semblent pas être profitables, ne semblent pas être de celles qu'on peut se glorifier. On est au bord de l'abandon, au bord de la défaite. Dieu continue à nous parler. Et je pense que le matin où ma mère a dit à mon père, « C'est beau, tu peux contacter le pasteur Fontalvaux, mais que vas-tu dire à Dieu? » Je pense que c'était Dieu qui parlait à travers ma mère, parce que mon père, ça l'a tellement fait réfléchir qu'il n'a effectivement pas appelé le pasteur Fontalvaux pour démissionner. Donc Dieu nous parle. Encore faut-il, comme je le disais hier, qu'on ait les oreilles ouvertes. Encore faut-il, comme je le disais hier, que nous appliquions ce que le Seigneur va dire dans l'Apocalypse aux églises de l'Apocalypse en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'ange dit aux églises. Alors encore faut-il savoir que Dieu continue à nous parler et encore faut-il vouloir entendre la voix de Dieu pendant un certain nombre d'années. Je fermais mon oreille à la voix de Dieu. Le jour où j'ai capitulé, la personne qui était sur la tribune était en train de faire un appel et moi je refusais, alors que je savais que Dieu était en train de me parler. Donc mon frère, ma sœur, Dieu établit ses serviteurs et Dieu parle encore à ses serviteurs. Mais j'aime la fin de cette phrase qu'on étudie ce matin. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. En ces mots. Le terme mot, c'est le terme amar. A-M-A-R, comme on a vu tout à l'heure. Qui veut dire prononcer quelque chose, promettre une chose, avouer une chose, parler avec éclat, donc avec force, affirmer avec fierté et avec conviction. Et je garde le dernier synonyme pour notre conclusion tout à l'heure. Dieu vient prononcer des choses. Dieu vient promettre des choses. Dieu vient parler avec éclat. Et Dieu vient affirmer avec véhémence et avec émotion. Dieu ne veut pas strictement chuchoter dans ton oreille. Dieu veut te parler avec conviction, avec assurance. Dieu veut déclarer des choses claires pour ta vie. Je me destinais à une autre carrière. J'avais des professeurs qui me voyaient à l'école et qui, selon mes aptitudes, disait exactement la carrière vers laquelle j'aspirais pendant ces 4 années où je m'éloignais de Dieu. En fait, je voulais faire carrière en politique. Et il y a une certaine période à la fin de la classe de 3e, puis à la fin de la classe de 1e, on a une espèce de petite orientation qui se fait en France. Et les professeurs me disaient, Giacomin, c'était comme ça qu'on m'appelait. On appelle les étudiants, en tout cas à l'époque, on les appelait par leur nom de famille et non pas par leur prénom, mais ils me disaient, Giacomin, vous devez aller en politique. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je faisais déjà régulièrement l'école buissonnière pour aller participer à des ralliements politiques à l'époque. J'avais même un professeur qui est devenu député, qui est devenu maire et qui avait cette idéologie politique qui était la mienne, et je ne vous dirai pas dans quel camp il était. Mais j'avais les voix qui s'ouvraient devant moi, j'avais les gens qui aplanissaient le sentier pour moi, pour que j'aille dans cette carrière. Et Dieu est venu parler clairement, en disant, regarde Florent, c'est pas là où tu t'en vas. Là où tu dois aller, c'est là où je t'appelle. Il est venu me parler de façon très, très, très claire. C'est un samedi matin, lors d'une convention, d'une conférence, d'un week-end qu'on faisait dans la petite ville de Narbonne où mon père était pasteur dans le sud de la France. Et il y avait une missionnaire qui était là et ce matin-là, le samedi matin, il dirigeait le culte, il dirigeait la louange. Et en plein cœur de la louange, ma sœur était à l'orgue, j'étais à la guitare, guitare électrique, et la missionnaire arrête les chants et elle se met à raconter l'histoire de son frère. Et elle raconte que son frère, à l'époque où il avait 16 ans, et à cette même époque, j'avais 16 ans. Elle dit, son frère refusait l'appel de Dieu depuis déjà un certain nombre de mois ou d'années. Et ça faisait quand même 4 ans que je refusais l'appel de Dieu. Et un matin, l'appel de Dieu s'est fait si pressant que son frère, qui avait 16 ans à l'époque, au moment de ramasser ou de collecter l'offrande, s'est approché et est arrivé vers celui qui tenait le panier et lui a dit « Baisse le panier, baisse le panier, baisse le panier, baisse le panier, jusqu'à ce que le panier soit directement sur le plancher. » Et là, il a regardé le ciel en disant à Dieu « Si tu me veux, tu m'as. » Et il est monté à deux pieds dans le panier. Et c'était sa façon à lui de répondre oui à l'appel de Dieu quant au ministère. Alors que la sœur racontait ça, j'entendais les gens pleurer dans la salle. L'Esprit de Dieu se manifestait, les cœurs étaient touchés, et j'avais cette boule dans la gorge où je résistais quant aux pleurs. Et j'entendais les gens pleurer. Et il y avait un pleur en particulier qui m'embêtait, mais j'entendais la personne pleurer tout près de moi, et ça m'agaçait. Et j'ai dit à Dieu, regarde Seigneur, si tu me veux, il n'y a aucune logique dans ça, mais la sœur qui dirige les chants et qui raconte l'histoire de son frère va faire un appel maintenant même pour ceux qui veulent servir. J'arrête à peine ma prière et la sœur dit, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça de toute manière, parce que je ne ferai pas d'appel. Et je me tourne vers le ciel et je dis, Seigneur, tu avais ta chance, tu l'as ratée, maintenant laisse-moi tranquille. Et au même instant où je dis ça, je termine cette phrase dans ma tête, dans mon esprit. Au même moment où j'arrête de formuler cette phrase, la missionnaire qui dit, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de faire un appel maintenant même. Alors vous comprenez que je ne pouvais faire semblant de ne pas savoir que Dieu était en train de me parler directement à moi. Les gens se sont avancés et j'ai encore continué à résister. Je résistais tellement que j'avais coupé le son de ma guitare électrique et je posais mon oreille vers les cordes tout simplement pour plus entendre les gens pleurer, pour ne plus entendre la missionnaire. Et vous savez qu'une guitare électrique, si le volume est baissé, on n'entend pratiquement rien. Mais je voulais à tout prix entendre mes cordes et ne plus entendre les gens pleurer et la missionnaire parler. Quand j'ai cédé, j'ai posé ma guitare et il y avait un petit chemin qui était tracé dans la foule qui s'était avancée devant la tribune. Et il restait un petit chemin qui allait directement de là où j'étais avec ma guitare jusqu'au milieu de devant la scène, juste devant la tribune. Je me suis mis à genoux là-bas devant la tribune et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant toute l'assemblée. Après la louange, il y a eu prédication. Moi, je suis resté à genoux et je pleurais. Après l'assemblée, nous habitions au-dessus de l'église, au-dessus du local de l'église. Je suis monté dans ma chambre durant tout l'après-midi et j'ai pleuré. Les gens étaient restés pour un agapé, pour manger ensemble. Je n'ai pas mangé, je suis resté là à prier, à pleurer, dans ma chambre. Le soir venu, il y avait un culte encore. Je ne suis pas descendu pour le culte, J'étais dans ma chambre et je pleurais encore. Mes parents sont revenus après le culte et j'étais encore là, à genoux devant mon lit, en train de pleurer. Mes parents sont allés se coucher pour la nuit et je pleurais encore. Je me suis réveillé le lendemain matin, ma vie était changée. Et je savais que Dieu était venu me voir, que Dieu m'avait visité et que Dieu m'avait parlé. Dieu parle encore à ses serviteurs. Dieu établit encore ses serviteurs. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu s'engage aussi avec ses serviteurs. Le mot « amar », quand on dit il s'adressa à Jérémie une seconde fois en ces mots, le mot « amar » veut aussi dire « alliance ». Et cette journée-là où j'ai pleuré toutes les larmes que j'avais dans mon corps, c'était un jour de pacte et d'alliance avec Dieu. Non seulement moi envers lui, mais lui envers moi. Dieu traite encore alliance avec toi. Dieu veut encore faire des pactes entre toi et lui, et entre lui et toi. Entends sa voix. Laisse-le te parler. Entends sa voix. Laisse-le te donner ses indications. Entends sa voix et vois quel est l'engagement que Dieu prend à ton égard. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne m'a pas fait défaut. Il a été avec moi tout au long du chemin jusqu'à aujourd'hui. Et notre Dieu, Dieu d'alliance, Dieu de pacte, est un Dieu fidèle. Et jusqu'à ce qu'on soit dans l'éternité, je sais qu'il me gardera. Alors prions. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette parole qui est tout autre que celle que j'avais pu imaginer quelques minutes même avant qu'on entre en onde. Tu sais pourquoi, Seigneur, ces paroles ont été prononcées. Tu les as préparées de toute éternité et quelqu'un avait besoin d'entendre ce témoignage aujourd'hui. Peut-être que c'est quelqu'un qui était prêt à abandonner. Peut-être que c'est quelqu'un qui était prêt à ne pas accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as appelé. Je prie, Seigneur, que tu puisses effectivement te présenter à lui comme tu t'es présenté à moi. Et que tu puisses, Seigneur, l'amener à renouveler ses vœux à ton égard. Merci parce que tu es fidèle. Tu établis tes serviteurs encore aujourd'hui et les hommes ne peuvent les déplacer. C'est toi qui parles encore aujourd'hui à tes serviteurs, qui les instruis encore aujourd'hui. Et tu t'engages encore envers chacun d'entre eux. Alors, s'il y avait un de tes serviteurs qui était prêt à capituler aujourd'hui, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main, de le toucher, de l'entourer de tes bras et de lui permettre de sentir ton ineffable présence à ses côtés. Non, Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui s'engage pour se détourner par la suite. Merci Seigneur de fortifier ton serviteur et ta servante et de les garder. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors j'espère que ça vous a béni ce matin. On se retrouve donc, comme je l'ai dit, demain matin je ne serai pas en onde. Je dois être sur la route avec Daphné à peu près dans ce moment-là. Donc, dernière chose à faire avant de prendre la route. Donc, demain matin, je ne serai pas en onde. On se retrouve, nous, jeudi matin pour notre prochaine bénédiction matinale. Mais demain soir, il y a malgré tout l'étude biblique à l'église. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et très heureux d'avoir partagé ces quelques moments avec vous encore aujourd'hui. Soyez bénis.